Bon, aujourd'hui, on reçoit en studio Jean-Michel Laborde, qui est gestionnaire de la cité scolaire. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Pauline Donnet, qui est adjointe technique, adjointe technique de laboratoire, et qui s'occupe aussi, c'est pour ça que je l'ai invité, non pas du laboratoire, mais de la gestion des déchets sur la cité scolaire et la partie notamment des déchets qui sont produits plutôt par, entre guillemets, par les élèves. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par la partie restauration, internat. Donner quelques éléments de présentation de ce restaurant scolaire, de la cité scolaire. Combien de pensionnaires chaque midi?
Alors, chaque midi, on accueille autour de 600 élèves, dans la mesure où ici, on a un public relativement captif, puisque la plupart des élèves prennent le ramassage scolaire, et
Ouais.
donc quasiment tout le monde est soit interne, soit demi-pensionnaire.
Demi-pensionnaire. C'est vrai que lorsqu'on sort le soir, on arrive le matin, on voit tous ces bus à la file indienne sur le parking. C'est assez impressionnant. Il y a combien de bus qui arrivent? Est-ce que tu as une idée de...
C'est pas trop mon domaine, mais il
Une
y a
bonne
pas mal de
dizaine, oui.
circuits, oui, pas mal de
Pas
circuits
mal de
bus,
circuits, oui.
oui, puisqu'on draine un petit peu dans tous les sens
Oui.
autour de Sillé, que ce soit sur Fresnay, Beaumont, Conly,
Ouais, donc
avec le lycée, donc pas mal de circuits de bus, oui.
tout le secteur, oui. Et donc la restauration scolaire, je suppose que c'est un comment dire une activité qui a évolué depuis pas mal d'années. On est passé peut-être à une forme de restauration il y a 20 ans, on fait plus la même chose aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution, vers quoi on va
C'est vrai que ben, on est bien loin du temps de ce que l'on appelait les cantines scolaires, et donc c'est vrai que la plus forte tendance, ça a été de se diriger vers ce qu'on appelle une restauration durable, qui intègre tous les aspects liés à la restauration, dans le sens où on ne s'intéresse pas que à ce qui est proposé aux élèves, mais on s'intéresse beaucoup aux achats,
Ouais, aux
à la
produits, ouais.
manière dont sont emballés les produits. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le terme durable. Et donc, ben, nous, on est à fond dans ce type de projet déjà depuis pas mal d'années.
Ouais. Et donc, par exemple, quand tu parles de durable, à quel type de produit tu fais référence, d'où ça vient?
Alors c'est vrai que la tendance actuellement, ça a été d'essayer de favoriser le milieu local, et de profiter du fait que bah, il y a des produits très intéressants sur le territoire, et donc on essaie de valoriser ces produits en les proposant donc aux services de restauration le plus possible. Je mets toujours en bémol à ce que je dis, parce que bien souvent on est un petit peu contraint par les marchés publics, et donc bah, on essaie de faire en sorte que les producteurs locaux puissent proposer leurs produits dans ce cadre-là.
Ouais.
Voilà.
Et par exemple, en producteurs locaux, est-ce que tu peux donner des agriculteurs ou
Oui, bah, je dirais
des...
que bah, y a Monsieur Drouin, par exemple, au niveau de quelques produits laitiers, qui est sur Rouen-en-Champagne. Bah, le producteur de pommes est à La Chapelle-Saint-Fray, Monsieur Champion. Ensuite, quand on dit local, c'est pas forcément, je dirais, dans les 10 km
Oui.
autour. Ce qu'on s'efforce de faire, et ce qu'est la politique régionale, c'est d'abord de faire, on va dire déjà du français,
Oui.
100% français. Ensuite,
De
bah,
proximité si possible.
50% régional, et puis ensuite, bah, tout ce qu'on peut faire au plus près, c'est-à-dire départemental, voire les villages alentours, ben, on essaie de le faire.
Alors la cité scolaire a aussi une particularité, c'est qu'il y a un internat. Est-ce que tu as le nombre en tête
Oui,
de
on a
jeunes qui
60
sont
internes,
60 internes, oui.
on est quasiment à capacité maximum, hein, puisqu'on doit avoir 65 places
Ouais.
donc, à l'internat.
Donc ça veut dire aussi avoir l'équipe de restaurateurs ou de restauration qui est là aussi le matin pour le petit déjeuner et le soir pour le repas du
C'est vrai
soir.
qu'il y a une amplitude d'emploi du temps pour les personnels de restauration, et même pour ceux qui s'occupent de l'entretien des locaux, qui est importante, que ça démarre à 6 heures le matin et puis
Ouais.
ça se termine à 20 heures le soir, avec deux services en effet. Un très important sur le midi, c'est là que les forces sont le
Oui,
plus
tu parlais
concentrées.
de 600
Les
élèves.
600, voilà, ce qui fait, ça peut faire 630 avec les adultes en gros. Et puis le soir, donc on a 60 repas.
Ouais. Et donc 60 repas et autant le matin, j'imagine forcément.
Oui, il y a des petits déjeuners aussi.
Des petits déjeuners aussi,
voilà,
ouais.
C'est ça. Non, mais la restauration, c'est un pôle important.
Oui, c'est un pôle important, surtout dans une cité scolaire, vu que les enfants viennent, ben, sont là pour la semaine, essentiellement, ben, au niveau de l'internat.
Oui, oui.
Donc c'est vrai qu'il faut aussi assurer. Est-ce que les parents sont demandeurs d'ailleurs? Est-ce qu'ils sont regardants sur Est-ce qu'il pose des questions sur ce qui est servi ou des remarques qui sont faites?
C'est vrai qu'on ne sait pas toujours quand ça plaît, mais on sait quand ça ne plaît pas, ouais. On va dire. Les retours négatifs sont malheureusement plus fréquents,
ouais.
Je dirais, que les retours positifs. Mmh. Parce qu'on aime bien aussi les remarques positives.
Oui, j'imagine bien, oui.
Et donc, on a des structures en place, c'est-à-dire de temps en temps, on réunit ce qu'on appelle la commission de restauration, où les parents peuvent s'exprimer et nous faire remonter ce que peuvent leur dire les élèves. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contact direct avec les élèves, c'est-à-dire on essaie de savoir rapidement ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Alors, je suppose que vous savez déjà, en fonction des retours, au niveau d'un midi, par exemple, vous savez les choses qui vont...
Tout à fait.
Ils vont être mangés et d'autres moins. Par exemple, c'est quoi le plat phare
Ce serait pas une surprise si je disais que c'était si c'était des frites, par exemple, avec un steak haché. Le hamburger frites serait sûrement dans ce qui serait le plus plébiscité. Mais nous, on a aussi le devoir de faire connaître des produits.
Oui.
Et puis,
la diversification alimentaire aussi.
Il y a la diversification, et puis je dirais qu'on doit leur apprendre le goût de ce qui est cuisiné. Souvent, les jeunes, c'est plutôt une cuisine en kit, hein, c'est-à-dire ils prennent ou ne prennent pas tel ou tel produit. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer que l'on peut cuisiner des bonnes choses. Donc, ces dernières années, on a vraiment amélioré l'offre, je dirais déjà au niveau des entrées, parce que les entrées, c'était pas quelque chose qui était très prisé des jeunes. Et avec le salad bar, ça a été un élément qui a permis de proposer 6-7 entrées. Et là-dedans, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, panacher.
Ouais.
Et là, on a fait un bond en qualité et en satisfaction, je pense, du public. Ça, c'est pour les entrées. Ensuite, pour les plats de résistance, on est dans la diversité aussi.
Oui, il y a toujours du choix.
On propose deux plats à base de viande, un plat à base de poisson. Depuis 2-3 ans maintenant, on développe aussi les offres alternatives pour ceux qui ne prennent ni viande ni poisson, ceux qui sont plutôt végétariens.
Et toujours un choix de légumes aussi assez varié.
C'est ce que l'on essaie de faire.
Voilà. Alors justement, qui décide des repas? Comment c'est composé? Est-ce que c'est le cuisinier? Est-ce que c'est une équipe avec des parents? Est-ce que c'est est-ce que toi tu interviens?
Je dirais que c'est un petit peu de tout ça, mais c'est essentiellement le chef de restauration qui prépare ses menus en fonction des offres qu'il a, en fonction de la saisonnalité. Donc c'est assez technique, et en fonction aussi d'un plan alimentaire qui est d'un plan alimentaire national, hein, et donc que l'on essaie de suivre, donc pour respecter les aspects nutritionnels.
Et au niveau on parlait des retours. Est-ce que la cantine, la restauration scolaire aujourd'hui génère beaucoup de, entre guillemets, de déchets? Est-ce qu'il y a beaucoup de retours?
Il y a des déchets, mais notre je dirais que en amont, ce que l'on cherche à faire, c'est de limiter ces déchets.
Ouais, en proposant la diversité permet de.
C'est un des aspects. Ouais. C'est un des aspects, oui. Je dirais que on dispose maintenant de pas mal de matériel qui nous permettent de mieux gérer les aliments, qui nous permettent de fabriquer éventuellement un peu plus, mais de ne pas le proposer sur le moment aux élèves, de ne sortir que ce qu'il faut, et de garder par exemple en cellule de refroidissement ce que nous ne servons pas le jour même. Donc ça ne devient pas des déchets mais ça permet de proposer un peu plus de diversité le reste, les jours restants. Donc je l'ai dit, hein, le salad bar a été un élément qui nous a permis là aussi d'avoir moins de déchets, mmh. puisque les élèves prennent les portions qu'ils veulent.
Et puis ils choisissent, oui.
Voilà, alors c'est tout un ensemble de choses qui font que ben, on essaie de limiter les déchets, et quand il y a déchets, parce qu'il y en a immanquablement, ben, on essaie de les valoriser, et c'est là qu'intervient notamment ben, le composteur haute capacité que l'on a acquis il y a quelques années, et ouais. Qui nous permet donc de faire un tri et de valoriser les déchets.
Donc il y a un composteur installé sur la cité scolaire alors.
Tout à fait, il y a un composteur et chaque jour on dépose les déchets mmh. fermentissibles. Et donc il y a un tri qui est fait par les élèves, ça aussi ça participe à la responsabilisation des jeunes, et il y a un tri qui est fait entre le fermentissible, le non fermentissible, tout ce qui est emballage est trié par les jeunes. On essaie de responsabiliser sur le pain aussi, on fait un tri également sur le pain pour montrer que, alors ça c'est un élément qui marque, et donc on essaie d'être éducatif dans ce domaine-là.
Et donc pour terminer, combien de personnes travaillent au service restauration ? Parce que tu disais, bon, 600 personnes, plus le matin, plus le soir, ça représente combien de
personnes ?
Le
matin, c'est une équipe de 3-4 personnes, c'est pas énorme. Mmh. Hein. Au niveau du service, ensuite, il y a deux autres, enfin, il y a une personne de plus, et après, il faut du monde aussi côté plonge. Globalement, c'est 8 personnes qui travaillent quotidiennement sur la restauration.
Ouais, une grosse organisation, alors, pour le coup, à la cité scolaire Paul Scarron, sur cette partie restauration.
Oui, c'est-à-dire, il y a ceux qui sont entièrement dédiés restauration, si je puis dire.
Oui, bah forcément, c'est-à-dire le cuisinier,
ses aides de cuisine, voilà, ça c'est...
La partie plonge.
Et après, pour la partie plonge, ce sont des personnes aussi qui font l'entretien des locaux, et qui, sur le temps de midi, sont immanquablement associées au service de restauration.
Alors, on parlait des déchets générés par les déchets générés par la restauration, avec cette idée de compost sur la cité scolaire. Il y a aussi d'autres déchets qu'on peut trouver ici sur une cité scolaire. On va trouver forcément du papier, des crayons, j'imagine, et puis peut-être plein d'autres choses. Alors, Pauline Donnet, qui s'occupe de cette gestion des déchets sur cette cité scolaire, est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques éléments de ce qui peut être recyclé ou de ce qui est recyclé aujourd'hui à la cité scolaire?
Alors sur la cité scolaire, donc depuis quelques années, donc afin d'optimiser et de valoriser donc les déchets produits par la cité scolaire, on a mis en place en fait un kiosque de tri. C'est un meuble qui est accessible aux élèves et qui nous permet donc de recycler des stylos, des piles, des cartouches d'encre et du papier. Il y a aussi dans les classes des bacs de recyclage du papier qui hebdomadairement, s'ils sont pleins, sont descendus par un élève dans ce meuble, justement, afin de collecter un maximum de papier et que ça finisse pas dans la poubelle. Sont recyclés aussi des bouchons, donc qui sont collectés pour la maison.
Alors des bouchons qui viennent pas de la cité scolaire pour le coup.
Non, mais donc c'est une collecte en fait qui était faite initialement sur la cité scolaire, et donc le meuble en fait centralise toutes les collectes de déchets qui sont faites sur la cité scolaire. Donc nous avons donc une collecte de bouchons qui est récoltée par la maison spécialisée de Ciel Guillaume, qui leur permet en fait de financer des projets pour les jeunes enfants grâce à la collecte de bouchons. Il y a donc les piles usagées qui sont emmenées à la déchetterie régulièrement, les cartouches d'encre aussi. Et donc le papier qui est vidé dans des conteneurs disponibles pour la collecte des déchets. Ouais. Et aussi donc les crayons, donc les élèves, les enseignants peuvent déposer donc leurs feutres, leurs stylos, leurs effaceurs, tout plein d'instruments d'écriture qu'on utilise sur la cité scolaire, afin de pouvoir les valoriser, les recycler. en faire quelque chose de nouveau. Quoi.
Ouais. Alors, est-ce que les jeunes sont sensibles à ce recyclage qui existe depuis quelques années ici ? Est-ce que c'est un truc qui les intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose qui les interpelle, cette idée de recycler ou de ne pas jeter n'importe comment, n'importe quoi ?
Alors,
ou est-ce que c'est un apprentissage
On va dire que ça devient un peu plus un automatisme au fur et à mesure des années. Après, est-ce que ça les fascine ? Je ne sais pas. Mais ça fonctionne plutôt bien. Il y a collectivement, il y a l'action marche plutôt bien. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de crayons dans les poubelles.
Oui, ça...
Mais on va dire qu'il y a une bonne mobilisation. L'année dernière, on a pu récupérer quand même 13 kilos de crayons. Donc, ça paraît peut-être pas énorme, mais ça... Ça représente quand même en quantité...
Un certain volume, parce que voilà. Le poids d'un crayon, c'est quand même assez léger.
Carton me fait 3 kilos, enfin, c'est des cartons de ramettes de papier, donc ça représente 3 kilos de crayons, donc ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de cartons, 13 kilos, donc je trouve ça satisfaisant pour la cité scolaire, cette quantité de crayons qui est récoltée. Donc c'est envoyé dans une société TerraCycle, à partir de 20 kilos de crayons et qui prend en charge ses stylos pour en faire des instruments nouveaux, des arrosoirs, tout D'accord. un tas de choses en plastique.
Et TerraCycle, ça se trouve où ça ? C'est dans le coin, c'est
non, c'est pas forcément. C'est pas dans le coin. Alors là, j'ai pas l'adresse précise sous les yeux.
Non, mais c'est en Sarthe. C'est
ah non, c'est pas du tout en Sarthe.
C'est pas dans la région.
Non, c'est D'accord. pas dans la région. Ils ont tout un éventail d'opérations comme les stylos sur les cartouches Tassimo, tout un tas d'opérations de recyclage, donc qui sont pas que spécialisées dans le recyclage des stylos. Et d'ailleurs, ils sont en train de lancer donc une nouvelle opération avec donc les bâtons de colle.
Et parce que ça, c'était pas encore recyclé, les bâtons de colle.
Non, ils les prenaient pas en charge, les bâtons de colle, certainement pour la substance,
chimique, la
séparation entre la colle et le plastique devait pas encore être établie. Donc là, ils ouvrent l'opération, donc ça pourrait être un bon complément pour compléter justement le recyclage des instruments d'écriture.
Est-ce qu'il y a d'autres des idées de recycler d'autres choses que des crayons ou du papier ? Est-ce qu'il y a d'autres idées en cours choses qui pourraient être recyclées sur le lycée auxquelles on ne pense pas, la cité scolaire ?
Il y a déjà des actions pour recycler chaque année, par exemple les micro-ordinateurs, puisque ce sont des produits qui se renouvellent, tout ce qui est informatique. Donc la région des Pays de la Loire a mis en place un ramassage annuel de tout ce type de matériel. Ensuite, je vois l'infirmerie, et bien depuis longtemps, on est dans un programme de recyclage de tout ce qui est seringues usagées ou produits pharmaceutiques qui non utilisés ou périmés. Donc ça fait partie également de ce que l'on pratique déjà depuis pas mal de temps.
Donc tout ce qui existe dans la cité scolaire est presque tout recyclé, en fait. Les meubles, les vieux meubles aussi, j'imagine, les vieux bureaux, ça part pas à la poubelle, ça
part au déchetterie. On essaie de trouver des solutions avant de conduire à la déchetterie.
Mmh, mmh.